Chapitre 2. Quand Obinze découvrit son email, il était assis à l'arrière de sa Range Rover, bloqué dans les encombrements de Lagos, sa veste suspendue au dossier du siège devant lui. Un petit mendiant aux cheveux couleur rouille, le visage collé à la vitre, à un marchand ambulant pressant des DVD multicolores contre l'autre vitre, la radio dont le volume avait été baissé, débitant les nouvelles en pidgin sur Wasobia FM, et tout autour, le gris maussade d'une averse imminente. Il contempla son BlackBerry, sentant son corps se contracter. D'abord, il parcourut rapidement l'email, regrettant instinctivement qu'il ne soit pas plus long. « Mon cher ciel. »«
Kedou ?»«
J'espère que tout va bien pour ta famille et tes affaires. Rani Nudo me dit qu'elle t'a rencontré il y a quelque temps et que tu as un enfant à présent. Fier papa, félicitations. J'ai récemment décidé de revenir au Nigeria. Devrais être à Lagos dans une semaine. Aimerais qu'on reste en contact. Prends soin de toi. Ifemelu. » Il relut lentement l'email et éprouva le besoin de passer sa main sur quelque chose, sur son pantalon, son crâne rasé. Elle l'avait appelé ciel. Dans le dernier message qu'il avait reçu d'elle, elle l'avait appelé Obinze, s'excusant de son silence depuis des années, lui souhaitant d'être heureux avec des mots chaleureux et mentionnant qu'elle vivait avec un noir américain. Un email très aimable, qu'il avait détesté à tel point qu'il avait cherché sur Google des détails sur le noir américain. Et pourquoi donc lui indiquait-elle le nom de cet homme, si ce n'était pas parce qu'elle voulait qu'il se renseigne? Un maître de conférence à Yale. Et il avait trouvé insupportable qu'elle vive avec quelqu'un qui, dans son blog, traitait ses amis de chats. Mais c'était la photo de l'Américain, image de l'intellectuel décontracté par excellence, avec son jean piteux et ses lunettes à monture noire, qui avait achevé Obinze et l'avait incité à lui adresser une réponse glaciale. « Merci de tes bons vœux, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie », avait-il écrit. Il avait espéré recevoir d'elle un mot moqueur. Cela lui ressemblait si peu de n'avoir montré aucune acrimonie, même imperceptible, dans ce premier email. Mais elle n'avait pas répondu, et quand il lui avait écrit à nouveau, après son voyage de noces au Maroc, pour lui dire qu'il voulait rester en contact avec elle et lui parler de temps en temps, elle ne s'était pas manifestée. La circulation reprenait. Une pluie fine tombait. Le petit mendiant l'accompagna en courant, l'expression de ses yeux de biche encore plus pathétique, ses gestes de plus en plus excessifs, portant avec frénésie sa main à sa bouche, ses doigts pressés les uns contre les autres. Obinze baissa la vitre et tendit un billet de 100 neras. Dans le rétroviseur, son chauffeur, Gabriel, l'observa d'un air profondément désapprobateur. « Dieu te bénisse, Oga !» dit l'enfant. « Ne donnez pas d'argent à ces mendiants, monsieur, » dit Gabriel. « Ils sont tous riches. Il m'en dit pour avoir beaucoup d'argent. On m'a raconté que l'un d'eux s'est fait construire un immeuble de 6 appartements à Ikeja. Alors pourquoi es-tu chauffeur plutôt que mendiant, Gabriel ?» demanda Obinze et il rit un peu trop fort. Il aurait voulu dire à Gabriel qu'il venait de recevoir un email de la fille qui était sa petite amie à l'université, plus précisément à l'université et au lycée. La première fois qu'elle l'avait laissé lui ôter son soutien-gorge, elle était couchée sur le dos et gémissait doucement, tenant la tête d'Obinze dans ses doigts écartés. Et après, elle lui avait dit « J'avais les yeux ouverts, mais je ne voyais pas le ciel. Ça ne m'était jamais arrivé. » D'autres filles auraient prétendu qu'elle n'avait jamais permis à un autre garçon de les toucher, mais pas elle. Jamais elle. Elle était d'une franchise saisissante. Elle se mit à appeler ce qu'ils faisaient ensemble le ciel. Leurs étreintes brûlantes sur son lit en l'absence de sa mère, vêtues de leurs seuls sous-vêtements, se touchant, s'embrassant, se suçant, bougeant les hanches en guise de simulacre. « J'ai envie du ciel », avait-elle écrit un jour au dos du cahier de géographie d'Obinze. Et pendant longtemps par la suite, Il ne put regarder ce carnet sans être traversé d'un frisson, d'une secrète excitation. À l'université, quand ils cessèrent enfin de simuler, elle se mit à l'appeler « ciel », en riant, d'une façon suggestive. Mais quand ils se disputaient ou qu'elle restait à bouder, elle l'appelait « Obinze ». Elle ne l'avait jamais appelé le Z, comme le faisaient ses amis. « Pourquoi l'appelles-tu ciel ?» lui avait demandé son ami Okudiba, par un de ces jours nonchalants qui succédaient aux examens du premier semestre. Elle s'était mêlée à un groupe d'amis d'Obinze assis autour d'une table de plastique crasseuse dans un bistrot à bière à l'extérieur du campus. Elle avait bu son maltina à la bouteille, avalé d'un coup, regardé Obinze et dit « Parce qu'il est si grand qu'il a la tête près du ciel, vous ne voyez pas ?» Sa lenteur délibérée, le léger sourire qui étirait ses lèvres, signifiaient clairement qu'elle voulait leur faire savoir que ce n'était pas pour cette raison qu'elle l'appelait ciel. D'ailleurs, il n'était pas grand. Elle lui lança un coup de pied sous la table et il le lui rendit, regardant ses amis rire. Ils avaient tous un peu peur d'elle, étaient tous un peu amoureux d'elle. Voyait-elle le ciel quand le noir américain la caressait? Avait-elle utilisé le mot « ciel » avec d'autres hommes? Cette pensée le troubla soudain. Son téléphone sonna et durant un instant de confusion, il crut que c'était Ifemelu qui l'appelait d'Amérique. « Chérie, kedu ebe ino ?» Sa femme, Kossi, quand elle lui téléphonait, commençait toujours par ces mots. « Où es-tu ?» Lui ne demandait jamais où elle se trouvait quand il l'appelait, mais elle le lui disait chaque fois. « Je pars chez le coiffeur. Je suis sur le Third Mainland Bridge. » Comme si elle avait besoin d'être rassurée sur leur présence physique quand ils n'étaient pas ensemble. Elle avait une voix enfantine, haut perchée. Ils étaient censés se retrouver chez Chief pour la réception à 7h30 et il était déjà 6h passées. Il lui dit qu'il était pris dans un embouteillage. Mais on avance et nous venons de tourner dans Ozumba Mbadiwe, j'arrive. Sur la voie express de Lekki, la circulation s'accéléra tandis que la pluie diminuait, et peu après, Gabriel donnait un coup d'avertisseur devant le portail de la maison. Mohamed, le portier, silhouette maigre sous son caftan blanc sale, ouvrit en grand les grilles et leva une main en guise de salut. Obinze regarda la maison, ocre, entourée d'une colonnade. À l'intérieur, il y avait ses meubles importés d'Italie, sa femme, sa fille, âgée de 2 ans, Bucci, la nounou, Christiana, la sœur de sa femme, Chioma, venue ici en vacances forcées parce que les professeurs de l'université étaient à nouveau en grève, et la nouvelle domestique, Marie, qu'ils avaient fait venir du Bénin lorsque sa femme avait décrété que les Nigérianes ne faisaient pas l'affaire. Les pièces seraient fraîches, les vibrations de la climatisation agréables, et la cuisine embaumerait le curry et le thym. La télévision au rez-de-chaussée serait branchée sur CNN, tandis que celle de l'étage diffuserait des dessins animés, et partout régnerait une impression de bien-être. Il descendit de la voiture. Il avait une démarche raide, levait les jambes avec difficulté. Depuis quelques mois, il avait l'impression d'être surchargé par tout ce qu'il avait acquis. La famille, les maisons, les voitures, les comptes en banque, et était pris, de temps en temps, de l'envie de crever cette bulle avec une épingle, de tout faire dégonfler pour être libre. Il ne savait plus avec certitude, il ne l'avait jamais su en réalité, s'il aimait vraiment cette existence ou s'il l'aimait parce qu'il était censé l'aimer. « Chérie ?» dit Kossi en ouvrant la porte avant qu'il l'atteigne. Elle était maquillée, éclatante, et il pensa, comme souvent, que c'était une femme ravissante, avec ses yeux fendus en amande, l'étonnante symétrie de ses traits. Sa robe de soie froissée était étroitement serrée à la taille et donnait à sa silhouette l'aspect d'un sablier. Il la prit dans ses bras, évitant soigneusement ses lèvres, peintes en rose et soulignées d'une teinte plus foncée. « Soleil du soir, Assa, Hugo !» dit-il. Chief n'aura pas besoin d'allumer les lampes à sa fête une fois que tu seras là. » Elle rit, de la même façon qu'elle riait, ne cachant pas qu'elle était heureuse d'être belle quand on lui demandait « Est-ce que votre mère est blanche? Êtes-vous métisse ?» Car elle avait la peau très claire. Il s'était toujours étonné du plaisir qu'elle éprouvait à être prise pour une métisse. « Papa, papa !» s'écria Bucci, en accourant vers lui avec l'équilibre incertain des tout-petits. Elle sortait de son bain du soir, vêtue de son pyjama à fleurs, et répandait une agréable odeur de lotion pour bébé. « Butch, Butch, la Butchie de papa !» Il l'éleva en l'air dans ses bras, l'embrassa, enfouit son visage dans son cou et, parce que cela la faisait toujours rire, fit semblant de la laisser tomber sur le sol. « Tu as l'intention de prendre un bain ou seulement de te changer ?» demanda Cosi en le suivant à l'étage, où elle avait disposé un cafetan bleu sur son lit. Il aurait préféré une chemise habillée ou un cafetan plus simple que celui-ci, avec ses broderies trop chargées, que Cosi avait acheté à un prix scandaleux chez un de ses nouveaux créateurs de mode dans l'île. Mais il le mettrait pour lui faire plaisir. « Je vais juste me changer. » « C'était comment au bureau ?» demanda-t-elle de son air gentiment distrait, avec lequel elle posait toujours la question. Il répondit qu'il réfléchissait au nouvel immeuble d'habitation qu'il venait de terminer dans Parkview. Il espérait que Shell le louerait, parce que les compagnies pétrolières étaient les meilleurs locataires, ne se plaignaient jamais des hausses brutales, payaient facilement en dollars américains afin que personne n'ait à s'inquiéter des fluctuations du Naira. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle, et elle lui effleura l'épaule. « Dieu nous amènera, Shell. Tout ira bien, chérie. » Les appartements étaient en réalité déjà loués par une compagnie pétrolière, mais il lui débitait parfois des mensonges absurdes, comme celui-ci, parce qu'une partie de lui-même espérait qu'elle lui poserait une question ou le contredirait, tout en sachant qu'elle n'en ferait rien, car son seul désir était que leur mode d'existence reste inchangé et qu'elle lui en laissait l'entière responsabilité. La réception chez Chief l'ennuierait, comme d'habitude. Mais il y alla parce qu'il assistait à toutes les fêtes de Chief, et chaque fois qu'il garait sa voiture devant la grande résidence, il se souvenait de sa première visite avec sa cousine Neoma. Il venait de rentrer d'Angleterre et n'était à Lagos que depuis une semaine, mais Neoma se plaignait de le voir rester à lire et se morfondre dans l'appartement qu'elle occupait. « Un. Oh, Ginny, tu crois être le premier à avoir ce problème ?» « Allez, remue-toi. Tout le monde s'active à Lagos, » avait-elle dit. Elle avait des mains robustes aux paumes épaisses et des intérêts dans de nombreuses affaires. Elle se rendait à Dubaï pour acheter de l'or, en Chine pour acheter des vêtements féminins et assurait depuis peu la distribution d'une société de poulets congelés. « Je pensais que tu pourrais m'aider dans mes affaires, mais non. Tu es trop mou. Tu parles trop anglais. J'ai besoin de quelqu'un avec du gra-gra. » avait-elle dit. Obinze était encore sous le coup de ce qui lui était arrivé en Angleterre, encore annihilé par le poids de son apitoiement sur lui-même, et entendre Neoma poser cette question sarcastique « Tu crois être le premier à avoir ce problème ?» avait provoqué un choc chez lui. Elle ne comprenait rien. Cette cousine qui avait grandi au village, qui posait sur le monde un regard sévère et insensible. Mais peu à peu, il se rendit compte qu'elle avait raison. Il n'était pas le premier et ne serait pas le dernier. Il se mit à répondre à des offres d'emploi trouvées dans les journaux, mais personne ne l'appela pour lui proposer un entretien. Et ses amis d'école, qui travaillaient maintenant dans des banques ou des compagnies de téléphone, se mirent à l'éviter, redoutant qu'il leur fourre un CV de plus dans la main. Un jour, Neoma dit « Je connais cet homme très riche, Chief. Il m'a beaucoup couru après, mais j'ai refusé. Il a un vrai problème avec les femmes et il pourrait refiler le sida à quelqu'un. Mais tu connais ce genre d'homme, la seule femme qui leur dit non est celle qu'il n'oublie pas. Alors, de temps en temps, il m'appelle et parfois je vais le saluer. Il m'a même aidé en me prêtant de l'argent pour faire repartir mon affaire après que ses enfants de Satan m'ont volé l'année dernière. Il croit encore qu'un jour je lui dirai oui. Oh Diego, pour aller où? Je vais te le présenter. Lorsqu'il est de bonne humeur, cet homme-là, il peut être très généreux. Il connaît tout le monde dans le pays. Peut-être qu'il nous donnera une recommandation pour un directeur quelque part. Un intendant les introduisit. Assis sur une chaise dorée semblable à un trône, Chief sirotait un cognac en compagnie d'invités. Il se leva d'un bond. Il était petit, plein d'entrain et d'excitation. « Neoma, c'est toi ? Alors aujourd'hui, tu te souviens de moi ? » dit-il. Il la serra dans ses bras, se recula pour apprécier d'un regard effronté ses hanches que soulignait sa jupe étroite, ses longs cheveux qui retombaient sur ses épaules. « Tu veux me donner une crise cardiaque et... Comment pourrais-je te donner une crise cardiaque ? Qu'est-ce que je ferais sans toi ?» le taquina Neoma. Tu sais quoi faire, dit Chief. Et ses invités partirent d'un grand rire, trois hommes avertis qui s'esclaffaient. Chief, je te présente mon cousin, Obinze. Sa mère est la sœur de mon père, le professeur, dit Neoma. C'est elle qui a payé mes études du début jusqu'à la fin. Sans elle, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Parfait, parfait, dit Chief, regardant Obinze comme s'il était responsable de cette générosité. Bonsoir, monsieur, dit Obinze. Il s'étonna de trouver à l'homme un côté dandy, avec son apparence excessivement soignée. Ongles faits, pantoufles de velours noir aux pieds, une croix de diamant autour du cou. Il s'était attendu à un homme plus grand et à une allure plus fruste. Asseyez-vous. Que puis-je vous offrir ? Les hommes importants et les femmes importantes, comme Obinze l'apprendrait plus tard, ne parlaient pas aux gens, mais parlaient à l'intention des gens. Et ce soir-là, Chief n'avait cessé de parler de politique d'un ton pontifiant, tandis que ses invités criaient leur approbation. « Oh, exactement, vous avez raison. Chief, merci. » Il portait l'uniforme de la riche jeunesse de Lagos, mocassins de cuir, jeans et chemises à col ouvert, arborant les logos de couturiers connus. Mais on décelait dans leur attitude l'empressement d'hommes dans le besoin. Après le départ de ses invités, Chief se tourna vers Neoma. « Tu connais cette chanson ? Personne ne sait ce que sera demain. » Puis il se mit à chanter avec une vigueur juvénile. « Personne ne sait ce que sera demain. Demain, personne ne le sait. » Il se versa une autre généreuse rasade de cognac. C'est le principe sur lequel est fondé ce pays, le principe majeur. Personne ne sait ce que demain sera. Tu te souviens de ces grands banquiers sous le gouvernement d'Abacha ? Ils se croyaient propriétaires du pays et sans avoir rien vu venir, ils se sont retrouvés en prison. Regarde ce malheureux qui ne pouvait pas payer son loyer jusqu'alors. Babangida lui a donné un puits de pétrole et maintenant il a son jet privé. Chief parlait d'un ton triomphant, présentant ses banales remarques comme de grandes révélations, tandis que Neoma écoutait, souriait et approuvait. Elle montrait un enthousiasme exagéré, comme si un sourire plus large et un rire plus vif, chaque coup de brosse à reluire plus appuyé que le précédent, pouvait garantir que Chief allait les aider. Obinze s'en amusa tant c'était flagrant, tant elle ne se cachait pas pour le flatter. Mais Chief se borna à leur faire cadeau d'une caisse de vin et dit vaguement à Obinze « Viens me voir la semaine prochaine. » Obinze lui rendit visite la semaine suivante, puis la suivante. Neoma lui conseilla de patienter jusqu'à ce que Chief fasse quelque chose pour lui. L'intendant lui servait toujours une soupe pimentée fraîche, des morceaux de poisson savoureux dans un bouillon qui lui piquait le nez, lui dégageait le cerveau et d'une certaine manière éclaircissait l'avenir et l'emplissait d'espoir, tandis qu'il restait assis, satisfait, à écouter Chief et ses invités. Il était fasciné par eux, par la servilité des presque riches en présence du très riche. Avoir de l'argent, semblait-il, revenait à être consumé par l'argent. Obinze éprouvait de la répulsion mêlée d'envie. Il avait pitié d'eux, mais s'imaginait en même temps comme eux. Un jour, Steve but plus de cognac qu'à l'accoutumée et parla de manière décousue des gens qui vous poignardaient dans le dos, des petits garçons avec de gros pénis et des imbéciles ingrats qui se croyaient soudain intelligents. Obinze n'était pas sûr de ce qui s'était passé, mais quelqu'un avait contrarié Chief. Un fossé s'était creusé et dès qu'ils furent seuls, il dit « Chief, si je peux faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez compter sur moi. » Ses propres mots le surprirent. Il était sorti de lui-même. Il était excité par la soupe au piment. C'était ça, s'activer. Il était à la gosse et il fallait qu'il s'active. Chief lui lança un long regard perspicace. « Nous avons besoin de davantage de gens comme toi dans ce pays. De gens de bonne origine, bien élevés. Tu es un gentleman, je le vois dans tes yeux. Et ta mère est professeure, ce n'est pas rien. » Obinze sourit à demi, prenant l'air modeste devant ces éloges étranges. « Tu es ambitieux et honnête, c'est très rare dans ce pays, n'est-ce pas ?» demanda Chief. « Oui, » répondit Obinze, même s'il n'était pas véritablement sûr de posséder ses qualités, ni que ses qualités soient rares. Mais peu importait, puisque Chief en semblait convaincu. Tout le monde est ambitieux ici, même les riches le sont, mais personne n'est honnête. Obinze hocha la tête et Chief le regarda encore longuement, avant de retourner silencieusement à son cognac. À la visite suivante, Chief se montra tout aussi loquace. J'étais l'ami de Babangida. J'étais l'ami d'Abacha. Maintenant que les militaires sont partis, Obasanjo est mon ami, dit-il. Sais-tu pourquoi? Parce que je suis stupide? Bien sûr que non, Chief, dit Obinze. Ils disent que la National Farm Support Corporation est en faillite et qu'ils vont la privatiser. Es-tu au courant? Non? Comment je le sais? Parce que j'ai des amis? Le temps de dire « ouf, j'aurais pris position et bénéficié de l'arbitrage, c'est ça notre marché libre. » Chief se mit à rire. La corporation a été créée dans les années 60 et possède des propriétés un peu partout. Les maisons sont pourries et les termites mangent les toits. Mais ils les vendent. Je vais acheter 7 propriétés pour 5 millions chacune. Tu sais pour combien elles sont inscrites dans les comptes? 1 million. Tu sais quelle est leur valeur réelle? 50 millions. Chief s'interrompit pour regarder celui de ses téléphones portables qui sonnait. Il y en avait 4 sur la table à côté de lui, puis n'y fit plus attention et se laissa aller en arrière sur le canapé. J'ai besoin d'un prête-nom pour cette affaire. Oui, monsieur, je peux faire ça, dit Obinze. Un peu plus tard, assise sur son lit, Neoma, excitée par ce qu'il lui racontait, lui prodiguait des conseils tout en se frappant la tête de temps en temps. Son crâne la démangeait sous ses tresses, mais elle ne pouvait pas faire mieux pour se gratter. « C'est ta chance! Le Z, sois malin et ouvre les yeux! On appelle ça d'un nom ronflant « consultant en évaluation », mais ce n'est pas difficile. Tu sous-évalues les propriétés et tu t'arranges pour avoir l'air d'appliquer les procédures. Tu acquiers les propriétés, en vend la moitié pour payer ton prix d'achat, et l'affaire est conclue. Tu crées ta propre société. Ensuite, tu te fais construire une maison à Lekki, tu achètes des voitures, demandes à notre ville natale de te donner quelques titres et à tes amis de faire paraître des messages de félicitations dans les journaux, et en un rien de temps, la première banque que tu iras trouver te consentira sur le champ un prêt, parce qu'ils penseront que désormais tu n'as plus besoin d'argent. Et après avoir déposé les statuts de ta propre société, tu devras trouver un homme blanc. Choisis un de tes amis d'Angleterre. Annonce à tout le monde qu'il est ton directeur général. Tu verras les portes s'ouvrir devant toi parce que tu as un directeur général au Yimbo. Même Chief a des managers blancs qu'il exhibe quand il a besoin d'eux. C'est comme ça que fonctionne le Nigeria. Je te le dis. Et c'était effectivement ainsi que tout avait fonctionné et fonctionnait encore pour Obinze. Pareille facilité l'avait stupéfié. La première fois qu'il avait présenté sa demande de crédit à la banque, il lui avait semblé surréaliste de dire 50 et 55, sans préciser millions, parce qu'il était inutile de spécifier ce qui allait de soi. Il s'était également étonné de constater à quel point tant d'autres choses étaient devenues faciles, comment la simple apparence de la richesse lui ouvrait les portes. Il lui suffisait de se présenter devant une grille d'entrée dans sa BMW et le portier le saluait et ouvrait sans poser de questions. Même l'ambassade américaine était différente. On lui avait refusé un visa des années auparavant quand il était jeune diplômé et débordé d'ambition américaine. Mais avec son nouveau relevé bancaire, il en avait facilement obtenu un. Durant son premier voyage, à l'aéroport d'Atlanta, le fonctionnaire de l'immigration s'était montré loquace et chaleureux et lui avait demandé « Et alors, combien d'argent avez-vous sur vous ?» Quand Obinze lui avait répondu qu'il n'avait pas grand-chose, l'homme avait eu l'air surpris. « Je vois tous les jours des Nigérians comme vous qui déclarent des milliers et des milliers de dollars. » C'était ce qu'il était devenu aujourd'hui, le genre de Nigérian qu'on s'attendait à voir déclarer une fortune en liquide dans les aéroports. Il en éprouvait une impression d'anomalie déconcertante parce que son esprit n'avait pas changé au même rythme que son existence. Et il sentait un écart béant entre lui et la personne qu'il était censé être. Il ne comprenait toujours pas pourquoi Chief avait décidé de l'aider, de l'utiliser sans s'occuper, voire en les encourageant, des incroyables bénéfices collatéraux qu'il en tirait. Il y avait après tout une flopée de visiteurs qui faisaient le siège de la maison de Chief, se prosternaient devant lui, des parents et des amis qui amenaient d'autres parents et amis, leurs poches pleines de requêtes et de sollicitations. Il se demandait parfois si Chief lui demanderait un jour quelque chose de particulier, à lui le garçon ambitieux et honnête qui avait réussi. Et dans ses moments les plus mélodramatiques, il imaginait qu'il lui demanderait d'organiser un assassinat. Dès qu'ils arrivèrent à la réception de Chief, Cossy le précéda dans la pièce, embrassant des hommes et des femmes qu'elle connaissait à peine. Appelant les plus âgés « Ma » et « Monsieur » avec un respect exagéré, jouissant de l'attention que son visage suscitait sans se mettre en avant afin que sa beauté ne paraisse pas provocante. Elle complimentait une femme pour sa coiffure, une autre pour sa robe, un homme pour sa cravate. Elle disait souvent « Nous remercions Dieu ». Quand une femme lui demanda, d'un ton accusateur, « Quelle crème de soin pour le visage utilisez-vous ? Comment peut-on avoir une peau aussi parfaite ?» Cossy rit gentiment et promit de lui envoyer un texto avec les détails de son traitement. Obinze avait toujours été frappé par le souci de Cossy de toujours paraître naturellement charmante, de ne jamais manifester la moindre impatience. Le dimanche, elle invitait ses parents à un repas de purée d'igname et de soupe d'onougoubou et s'assurait ensuite que tout le monde s'était convenablement nourri. « Oncle, il faut que tu manges, oh ! Il y a encore de la viande à la cuisine. Je vais t'apporter une autre Guinness. » La première fois qu'il l'avait emmenée chez sa mère Antsuka, peu avant leur mariage, elle s'était précipitée pour l'aider à servir le repas, et quand sa mère avait voulu débarrasser la table, elle s'était levée d'un air offensé et avait dit « Maman, comment pourrais-je être ici et que ce soit vous qui débarrassiez ?» Elle terminait toutes les phrases qu'elle adressait à ses oncles par « Monsieur ». Elle mettait des rubans dans les cheveux des filles de ses cousines. Il y avait quelque chose d'immodeste dans sa modestie. Elle la proclamait. À présent, elle s'inclinait devant Madame Akincole, une très célèbre vieille dame d'une très célèbre vieille famille, à l'air hautain et aux sourcils dédaigneux des personnes habituées à recevoir des hommages. Obinze l'imaginait souvent en train de rôter des bulles de champagne. « Comment va ton enfant ? Va-t-elle déjà à l'école ?» demanda Madame Akincole. « Tu devrais la mettre à l'école française, ils sont très bons, très professionnels. Naturellement, l'enseignement est en français, mais cela ne peut faire que du bien à une enfant d'apprendre une autre langue civilisée, puisqu'elle apprend déjà l'anglais à la maison. » « Très bien, Ma, je m'informerai sur l'école française, » dit Cossy. L'école française n'est pas mauvaise, mais je préfère Sidcot Hall. Ils suivent le programme anglais en entier, » dit une autre femme dont Obinze avait oublié le nom. Il savait qu'elle avait gagné beaucoup d'argent sous le gouvernement du général Abacha. Elle avait été entremetteuse, disait-on, fournissant des filles jeunes aux officiers de l'armée qui, à leur tour, lui procuraient de juteux contrats de fourniture. À présent, dans son étroite robe à paillettes qui soulignait la proéminence de son ventre, elle appartenait à une certaine catégorie de femmes d'âge mûr qu'on rencontrait à Lagos. Elle était desséchée par les désillusions, marquée par l'amertume, et l'éruption de boutons sur son front était masquée par une épaisse couche de fond de teint. « Oh oui, Sidcot Hall !» disait Cossy. « Elle est déjà en tête de ma liste, parce que je sais qu'ils suivent le programme anglais. » Obinze ne serait pas intervenu en temps normal, se bornant à observer et écouter, mais ce jour-là, sans raison apparente, il dit « Ne sommes-nous pas tous allés à l'école primaire qui enseignait le programme nigérian ?» Les femmes le regardèrent. Leur évidente stupéfaction laissait entendre qu'il ne pouvait pas parler sérieusement. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Naturellement, lui aussi voulait ce qu'il y avait de mieux pour sa fille. Parfois, comme aujourd'hui, il avait l'impression d'être un intrus dans son nouveau milieu, parmi ces gens persuadés que les écoles les plus modernes, les programmes les plus récents, garantiraient l'épanouissement de leurs enfants. Il ne partageait pas leur certitude. Il passait trop de temps à regretter ce qui aurait pu être et à s'interroger sur ce qui devrait être. Plus jeune, il était plein d'admiration pour des gens ayant eu une enfance aisée, qui parlaient avec un accent étranger, mais il avait fini par déceler chez eux une aspiration muette, une quête mélancolique de quelque chose qu'il ne pourrait jamais trouver. Il ne voulait pas avoir une enfant instruite et empêtrée dans des peurs. Bucci n'irait pas à l'école française, de cela il était sûr. Si vous choisissez de désavantager votre enfant en la mettant dans une de ces écoles, avec des professeurs nigérians médiocres, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, dit Madame Akincole. Elle s'exprimait avec un accent étranger indéfinissable, anglais et américain, avec quelque chose d'autre, l'accent d'une riche Nigériane qui ne voulait pas qu'on oublie son importance dans le monde, ni que sa carte exécutive de British Airways était bourrée de miles. Une de mes amies a mis son fils dans une école sur le continent, et le croiriez-vous, ils n'ont que 5 ordinateurs dans toute l'école. Seulement 5, dit l'autre femme. Obinze se souvint alors de son nom, Adama. Les choses ont changé, dit Madame Akincole. C'est vrai, dit Cossy. Mais je comprends aussi ce que dit Obinze. Elle prenait les deux parties pour plaire à tout le monde. Elle choisissait toujours l'apaisement plutôt que la vérité, soucieuse d'être en harmonie avec tous. En la regardant ce jour-là s'entretenir avec Madame Akincole, l'ombre dorée de ses paupières chatoyant dans la lumière, il eut honte de ses pensées. C'était une femme tellement attentionnée, tellement bien intentionnée. Il tendit le bras et lui prit la main. Nous irons à Sidcot Hall et à l'école française et jetterons un œil à certaines écoles nigérianes comme Crown Day, dit Cossy, en lui lançant un regard suppliant. Oui, dit-il. Il lui pressa la main. Elle saurait que c'était une manière de s'excuser, et plus tard il s'excuserait dans les formes. Il aurait dû se taire, la laisser parler sans intervenir. Elle lui disait souvent que ses amis l'enviaient. Il se comportait comme un mari étranger, lui préparant son petit déjeuner le week-end et restant le soir à la maison. Et dans la fierté qui brillait dans les yeux de Cossy, il percevait une image meilleure, plus séduisante de lui-même. Il était sur le point de dire quelque chose à Madame Akincole, quelque chose d'insignifiant et d'apaisant, quand il entendit Chief élever la voix derrière lui.
Mais vous savez qu'au moment où nous parlons, le pétrole coule dans des conduites clandestines et qu'on le vend en bouteille à Cotonou. Si, si.
Chief s'approchait d'eux. Ma belle princesse, dit-il à Cossy, et il la serra dans ses bras. Obinze se demanda si Chief lui avait jamais fait des propositions. Il n'en aurait pas été surpris. Il s'était trouvé un jour chez Chief quand un homme était venu le voir avec sa petite amie. Et lorsqu'elle avait quitté la pièce pour aller aux toilettes, Obinze avait entendu Chief dire à l'homme « Cette fille me plaît. Donne-la-moi, et je te céderai un beau terrain à Ikeja. »
« Vous semblez en forme, Chief, » dit Kossi. « Toujours aussi jeune. »
« Ah, ma chérie, j'essaie, j'essaie. »
Chief tira en riant sur les revers de soie de sa veste noire. Il avait l'air en forme, en effet, mince et droit, contrairement à beaucoup de ses semblables qui ressemblaient à des hommes enceints.
« Mon garçon, » dit-il à Obinze.
« Bonsoir, Chief. »
Obinze serra sa main entre les deux siennes en s'inclinant légèrement. Il vit les autres hommes présents à la réception s'incliner, eux aussi, rassemblés autour de Chief, se disputant l'honneur d'être celui qui rirait le plus fort à ses plaisanteries. De plus en plus de monde se pressait à la réception. Obinze leva les yeux et aperçut Ferdinand, un homme à la forte carrure, un proche de Chief, qui s'était présenté au poste de gouverneur aux dernières élections, avait été battu et, comme tous les politiciens ayant perdu, avait intenté une action en justice pour en contester les résultats. Ferdinand avait un visage dur, pervers. Si vous examiniez ses mains, vous y verriez le sang de ses ennemis incrusté sous ses ongles. Le regard de Ferdinand croisa le sien et Obinze détourna les yeux. Il craignait que Ferdinand ne vienne lui parler de l'affaire immobilière douteuse qu'il avait mentionnée à leur dernière rencontre. Aussi s'éloigna-t-il en murmurant qu'il allait aux toilettes. Devant le buffet, il vit un jeune homme qui contemplait d'un air désappointé les tranches de viande froide et les pâtes. Obinze fut attiré par son attitude embarrassée. Ses vêtements et sa contenance trahissaient un désarroi qu'il n'aurait pu dissimuler même s'il l'avait voulu. « Il y a une autre table de l'autre côté, avec de la nourriture nigériane, » lui dit Obinze. Et le jeune homme le regarda et se mit à rire, reconnaissant. Il s'appelait Yemi et était journaliste. Ce n'était pas surprenant. Les photos des réceptions de Chief s'étalaient toujours dans les journaux du week-end. Yemi avait appris l'anglais à l'université et Obinze lui demanda quels étaient ses livres préférés, heureux de parler enfin de quelque chose d'intéressant. Mais il comprit rapidement qu'un livre pour Yemi n'était pas de la littérature, à moins de contenir des mots polysyllabiques et des passages incompréhensibles.
« Le problème est que le roman est trop simple. L'auteur n'utilise aucun grand mot, » disait Yemi.
Attristé de voir que Yemi était si peu instruit et qu'il ne s'en rendait pas compte, Obinze eut soudain envie d'être professeur. Il se vit face à une classe remplie de Yemi. Cette vie d'enseignant lui conviendrait, comme elle avait convenu à sa mère. Il imaginait souvent tout ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il pourrait encore faire. Enseigner dans une université, publier un journal, entraîner des joueurs de ping-pong.
J'ignore quelle est votre branche d'activité, monsieur, mais je suis toujours à la recherche d'un meilleur job. Je suis en train de terminer mon master,
expliqua Yemi à la manière d'un vrai Lagosien qui se démène du matin au soir, toujours en quête du plus beau et du meilleur. Obinze lui donna sa carte avant de partir à la recherche de Kossi.
« Je me demandais où tu étais, » dit-elle.
« Désolée, je suis tombée sur une connaissance, » dit Obinze. Il plongea la main dans sa poche pour toucher son Blackberry. Kossi lui demandait s'il voulait encore quelque chose à manger. Non. Il avait envie de rentrer chez lui. Une impatience fébrile l'avait envahi. Le désir de se retrouver dans son bureau et de répondre à l'email d'Ifemelu, réponse qu'il avait déjà inconsciemment rédigée dans son esprit. Si elle envisageait de revenir au Nigeria, cela signifiait qu'elle n'était plus désormais avec le noir américain. À moins qu'elle ne l'amène avec elle, c'était le genre de femme qui pouvait sans peine amener un homme à abandonner ses racines, le genre de femme qui, parce qu'elle n'attendait ni n'exigeait aucune certitude, rendait possible une certaine forme d'assurance. Quand elle lui tenait la main à l'université, elle la pressait jusqu'à ce que leurs deux paumes deviennent moites de sueur, et elle disait, moqueuse, « Au cas où ce serait la dernière fois que nous nous tenons la main, faisons-le vraiment, car une moto ou une voiture pourrait nous tuer maintenant, ou je pourrais voir l'homme de mes rêves apparaître au coin de la rue et te quitter, ou c'est toi qui pourrais voir la vraie femme de tes rêves et me quitter. Le noir américain viendrait peut-être lui aussi au Nigeria, accroché à elle. Mais à lire son email, il devinait qu'elle était seule. Il sortit son BlackBerry de sa poche pour calculer l'heure qu'il était en Amérique lorsqu'elle l'avait envoyé, en début d'après-midi. Ses phrases semblaient hâtives. Il se demanda ce qu'elle faisait à ce moment-là. Et il se demanda ce que Rani Nudo avait bien pu lui dire d'autre à son sujet. Ce samedi de décembre, où il avait rencontré Rani Nudo, au centre commercial Palms, il portait Bucci sur un bras, attendant à l'entrée que Gabriel amène la voiture, et tenait un sac de biscuits pour sa fille de l'autre main. « Le Z !» avait crié Rani Nudo. Au lycée, c'était un vrai garçon manqué, pleine de vie, grande et maigre, directe, dépourvu des allures mystérieuses des filles. Tous les garçons l'aimaient, mais aucun ne lui courait après. Et il l'appelait amicalement « Laisse-moi en paix ». Parce que chaque fois qu'on la questionnait à propos de son nom inhabituel, elle répondait « Oui, c'est un nom Igbo, et il veut dire « Laisse-moi en paix, alors tu me fiches la paix ». Il s'était étonné de la voir si élégante à présent, changée, avec sa coiffure courte et un jean étroit qui soulignait sa silhouette aux courbes pleines. Le Z ! Le Z ! Depuis si longtemps, tu n'as pas pris de nos nouvelles. C'est ta fille ? Oh, par exemple, l'autre jour, j'étais avec un de mes amis, Dele, tu te souviens ? Dele, de la banque Hell. Il dit que tu es propriétaire de cet immeuble près des bureaux d'AC, dans Banana Island. Félicitations ! Oh, tu as vraiment réussi ! Et Dele dit que tu es resté modeste ? Il s'était senti embarrassé devant ses compliments exagérés, la déférence que révélait discrètement son attitude. Elle ne le voyait plus comme le Z du lycée, et les remarques sur sa richesse laissaient entendre qu'à ses yeux, il avait changé plus qu'on ne l'aurait cru. Les gens lui disaient souvent qu'il était modeste, mais il ne faisait pas allusion à une véritable humilité, simplement au fait qu'il ne se vantait pas d'appartenir à des clubs chics, ne profitait pas du pouvoir qui en découlait. Se montrer grossier, manquer d'égard, être salué plutôt que salué, et parce que tant d'autres, dans sa situation, tiraient avantage de ce pouvoir, ses choix étaient interprétés comme de l'humilité. Il n'affichait pas non plus, ni même n'évoquait, ses possessions, ce qui laissait croire aux gens qu'il avait beaucoup plus qu'en réalité. Même son meilleur ami, Okudiba lui disait souvent qu'il était trop humble. Et il s'en irritait un peu, car il aurait voulu qu'Okudiba comprenne que mettre l'accent sur son humilité revenait à tenir la grossièreté pour normale. En outre, l'humilité lui avait toujours paru une qualité fallacieuse, inventée pour rassurer autrui. Vous êtes apprécié pour votre humilité parce que vous ne faites pas ressentir aux gens leur insuffisance. C'était l'honnêteté qu'il appréciait. Il avait toujours voulu être scrupuleusement honnête et craignait toujours de ne pas l'être. Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Kossi dit « Chérie, tu dois être affamée. Tu n'as mangé qu'un rouleau de printemps. Et du souya. Il faut que tu manges. Dieu merci, j'ai demandé à Marie de nous préparer quelque chose. » dit-elle et elle ajouta en riant « Pour ma part, j'aurais dû faire attention et ne pas toucher à ces escargots. Je crois en avoir mangé 10. Ils étaient si bons et si bien assaisonnés. » Obinze rit, vaguement agacé, mais heureux qu'elle soit heureuse. Marie était de petite taille et Obinze n'aurait su dire si elle était timide ou si son anglais hésitant donnait cette impression. Elle n'était à leur service que depuis un mois. La dernière domestique, présentée par un parent de Gabriel, était trapue et était arrivée chez eux, serrant un fourre-tout contre elle. Il n'était pas présent lorsque Kossi l'avait inspectée, ce qu'elle faisait en général avec tous les domestiques, parce qu'elle voulait savoir ce qu'on introduisait dans sa maison. Mais il sortit quand il entendit Kossi hurler de cette voix impatiente et aiguë qu'elle prenait avec les serviteurs pour affirmer son autorité, parée à toute tentative d'irrespect.
Le sac de la fille était sur le sol, ouvert, débordant d'un flot de vêtements vaporeux. Cossy se tenait à côté, brandissant du bout des doigts un paquet de préservatifs.
« Et ça, c'est pour quoi faire ? Hein ? Tu viens dans ma maison pour te prostituer ?»
La fille avait d'abord baissé les yeux, silencieuse, puis regardé Cossy en face en répondant calmement.
« Dans ma dernière place, le mari de ma madame était toujours en train de me forcer. »
Cossy l'avait regardé les yeux exorbités. Elle s'était avancée, prête à frapper la fille, puis s'était immobilisée.
« Fais-moi le plaisir de prendre ton sac et de partir sur le champ !»
La fille avait fait un mouvement, visiblement surprise. Puis elle avait ramassé son sac et s'était dirigée vers la porte. Lorsqu'elle fut partie, Cossy dit
« Peux-tu croire une telle absurdité, chérie ? Elle est venue ici avec des préservatifs et elle n'a ouvert la bouche que pour dire des insanités. Tu peux y croire ?»
Son ancien employeur la violait et elle a décidé de se protéger cette fois-ci, dit Obinze. Cossy lui lança un regard noir.
« Tu la plains ! Tu ne connais pas ses domestiques. Comment peux-tu la plaindre ?»
Il aurait voulu rétorquer « Comment peux-tu ne pas la plaindre ?» Mais la lueur d'inquiétude qu'il avait vue apparaître dans son regard le fit taire. Son insécurité était si profonde et si banale qu'il resta silencieux. Elle s'inquiétait à cause d'une domestique qu'il n'aurait jamais eu l'idée de séduire. La gosse pouvait produire cet effet sur une femme mariée à un homme jeune et riche. Il savait avec quelle facilité on pouvait tomber dans la paranoïa à propos des domestiques, des secrétaires, des filles de Lagos, ces monstres de séduction qui avalaient les maris tout crus, les faisant glisser le long de leur gorge ornée de bijoux. Mais il aurait aimé que Cossy se montre moins inquiète, moins conformiste. Quelques années plus tôt, il lui avait parlé d'une jolie banquière qui était venue à son bureau pour l'inciter à ouvrir un compte. Une jeune femme vêtue d'un chemisier ajusté dont un des boutons du haut était défait, qui essayait de cacher son désarroi.
« Chérie, ta secrétaire ne devrait pas laisser ses filles du service marketing des banques entrer dans ton bureau »,
avait dit Cossy,
comme si elle ne le voyait plus, lui, Obinze, mais projetait à sa place des personnages indistincts, des types classiques. Un homme riche, une banquière qui avait pour objectif l'ouverture d'un compte, un échange facile.
Cossy s'attendait à ce qu'il la trompe, et son souci était d'en minimiser les possibilités.
« Cossy, rien ne peut arriver à moins que je le veuille »,
avait-il dit à la fois rassurant et fâché. Elle avait, depuis qu'ils étaient mariés, conçu une antipathie immodérée pour les célibataires de sexe féminin et un amour immodéré pour Dieu. Avant leur mariage, elle allait à la messe une fois par semaine à l'église anglicane sur la Marina, obéissant à une habitude routinière due à son éducation, mais elle avait ensuite changé pour la House of David parce que, comme elle le lui avait confié, c'était une église qui croyait dans la Bible. Plus tard, quand il avait découvert que la House of David avait un service spécial de prière intitulé « Gardez votre mari », il avait été désorienté. Tout comme il l'avait été quand il avait demandé pourquoi sa meilleure amie de fac ne venait presque jamais les voir et que Cossy avait répondu « Elle est toujours célibataire », comme si c'était une raison évidente. Marie frappa à la porte de son bureau et entra avec un plateau de riz et de bananes plantain frites. Il mangea lentement. Il introduisit un CD de Fela dans le lecteur et commença à rédiger l'email sur son ordinateur. Le clavier de son BlackBerry lui aurait paralysé les doigts et l'esprit. Il avait fait connaître Fela à Ifemelu à l'université. Auparavant, elle voyait en Fela l'accro à la marijuana qui venait en survêtement à ses concerts. Mais elle s'était mise à aimer l'afrobeat. Et il restait étendu sur son matelas Antsuka à l'écouter. Puis elle se levait d'un bond et d'un mouvement rapide et provoquant des hanches, accompagnait le run, run, run du cœur quand il entrait en scène. Obinze se demandait si elle s'en souvenait. Il se demandait si elle se souvenait que son cousin leur envoyait des compilations de l'étranger dont il lui avait fait des copies dans le célèbre magasin d'électronique du marché où la musique retentissait du matin au soir, résonnant dans vos oreilles même lorsque vous l'aviez quitté. Il voulait lui faire entendre la musique qu'il écoutait. Elle ne s'était jamais vraiment intéressée à Biggie, Warren G, Dr. Dre et Snoop Dogg. Mais Fela, c'était autre chose. Sur Fela, ils étaient d'accord. Il écrivit et réécrivit l'email sans mentionner sa femme ni utiliser la première personne du pluriel, essayant de trouver un équilibre entre les choses sérieuses et drôles. Il ne voulait pas qu'elle s'éloigne de lui. Il voulait s'assurer qu'elle lui répondrait cette fois. Il cliqua sur « Envoyer » et quelques minutes plus tard regarda si elle avait répondu. Il était fatigué. Ce n'était pas une fatigue physique. Il allait régulièrement à la salle de sport et se sentait mieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais une lassitude débilitante qui engourdissait quelque peu son esprit. Il se leva et sortit sur la véranda. La soudaine bouffée d'air chaud, le rugissement du générateur de son voisin, l'odeur des gaz d'échappement du diesel lui firent tourner la tête. Des insectes affolés virevoltaient autour des ampoules électriques. Contemplant l'obscurité brumeuse du lointain, il eut l'impression qu'il pourrait flotter et qu'il lui suffirait pour cela de se laisser aller.